בעזרת השם, לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו. Nos cours, d'une manière générale, sont de faire le lien entre les valeurs de l'infini et le monde dans lequel nous sommes, le monde de la création. Pour ce faire, Akadosh Baruch Hu a créé non seulement le monde, mais il a créé aussi l'intermédiaire entre lui et le monde à travers la personne, l'identité d'Israël. Israël est donc le vecteur par lequel l'infini béni soit-il revient dans le monde, dans sa propre création. Quand je dis revient, c'est parce que tout simplement la création du monde est un genre de découpage entre le créateur et la création elle-même. Ce retour de Dieu sur terre est en réalité défini par nos sages et d'une manière générale dans le judaïsme comme étant la Géoula. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une certaine forme que revêt cette Géoula, à savoir que les sages comparent le processus de la Géoula à un mikvé de purification. Le mikvé dans lequel la femme impure va se purifier et dans lequel aussi les hommes se purifient. Pourquoi et comment sont-ils arrivés à cette conclusion que la Géoula ressemble à un mikvé? Bien, tout simplement parce qu'ils ont pris une prophétie du prophète Isaïe au chapitre 11. La prophétie nous dit « Ki male'a ha'aretz de'a et ha'shem » Kamaim la yam mechassim. Il arrivera un jour où la connaissance remplira la terre comme l'eau remplit et recouvre la mer. Le prophète donc prophétise en expliquant que la Géoula est un remplissage de la matérialité, du monde matériel, de cette connexion avec le nom de l'Éternel. Dea, im Hashem, et Hashem, c'est avec. Autrement dit, nous avons ici le nom d'Hashem qui est transcendant et qui va remplir le monde d'une manière immanente. Ça veut dire que nous avons affaire à une intervention qui vient de l'au-delà de la nature, car ce nom défie toutes les lois de la nature, étant donné qu'il y a en lui le présent, Hové, le futur, Ihié, et le passé, Haya. Autrement dit, c'est un nom qui défie les lois de la nature, car il est au-delà des lois de la nature, et c'est lui qui a créé toutes ces lois naturelles. Dès que vous voyez ce nom apparaître, dans un verset, ça veut dire que nous avons affaire à une intervention qui dépasse, qui est transcendante et qui dépasse l'immanence terrestre. Et donc, je répète le verset qui m'allait à Haaretz, lorsque la terre sera remplie de connexions et de connaissances avec ce nom-là, comme les eaux recouvrent la mer, Yam. Or, d'abord, il faut comprendre que la terre rappelée ici dans ce verset n'est pas une terre quelconque. À chaque fois que la Torah dit « Ha, Aretz » avec la lettre « He » qui dit « la terre en question », ça s'écrit la lettre « He » avec un « patach » en dessous, avec un trait en dessous. Dès que vous avez « Ha, Kadour », c'est le ballon. On sait de qui nous parlons. Donc le verset ne dit pas « Kimala Eretz » car la terre sera reconnue et recouverte de sagesse. Non, c'est la terre en question, « Ha Aretz ». Or, dès que le texte nous parle de « Ha Aretz », on parle immédiatement de la terre d'Israël. Tout à l'heure, j'ai ouvert mes propos en disant que le peuple d'Israël sert de vecteur pour les valeurs de l'infini dans ce monde. Eh bien, il en est de même pour la terre, c'est-à-dire pour le lieu. La terre d'Israël, elle aussi, a cette qualité intrinsèque d'être un conducteur de lumière, de réceptionner la lumière de l'infini, du transcendant, et la preuve en est ce verset, car la terre sera remplie de connaissances de ce nom, avec ce nom. Il y a ici donc une capacité induite dans le verset même, qui dit que cette terre, la terre d'Israël, la fameuse terre en question, sa matière même, est capable d'être pleine, d'être fécondée, j'allais dire, par cette transcendance, par le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'elle va dévoiler, cette terre d'Israël, son appartenance au Kodesh, aux valeurs du Kodesh. D'ailleurs, en hébreu, elle s'appelle Eretz HaKodesh, la terre du Saint béni soit-il. Cela veut dire donc qu'elle fait partie de lui, qu'elle est appartenante à lui. Et nous avons ici donc un degré nouveau, c'est que cette sainteté va se dévoiler dans la matière elle-même de la terre. Les valeurs de l'infini vont apparaître dans la matérialité. On voit ici que la terre d'Israël a une dimension qui nous dépasse. Car si la chose arrivera, c'est qu'elle l'est déjà, mais d'une manière cachée. On ne le voit pas clairement, mais lorsque ce sera dévoilé, parce qu'on va enlever certains écrans, et tout à l'heure nous allons voir comment, eh bien, va se dévoiler tout simplement la vérité inhérente à cette terre qui est au présent déjà dans cette qualité, dans cette fonction-là, de pouvoir se connecter et d'appartenir aux valeurs de l'infini béni soit-il. Et donc, toutes les démarches, j'allais dire, naturelles de cette terre d'Israël dépassent en réalité la nature, vont s'avérer être au-delà des lois, n'obéissant pas aux lois de la nature à proprement dit, comme le dit le Rav Kook et comme le disent nos sages, que Eretz Israël est supérieure aux autres terres, pas au niveau physique, mais au niveau de ce qu'elle représente, parce qu'elle a des valeurs qui ne s'étudient pas avec le cérébral humain, avec la logique humaine. Ce sont des valeurs qui nous dépassent complètement. Le Rav Kook, par exemple, dans Oroth, commence son livre par « Eretz Israël et Inena Davar Chitsoni ». La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel. Il veut nous introduire dans le sujet qui concerne en fait la valeur de cette terre qui est capable donc de concevoir, de réceptionner les valeurs infinies. Donc tous les comptes, tous les calculs rationnels ne sont pas vrais en terre d'Israël. Donc, si vous avez quelque chose de rationnel, faites très attention en Eretz Israël. Le rationnel n'est pas rationnel ici, et c'est le non-rationnel qui est rationnel. Tout ce qui est miraculeux, entre guillemets, qui dépasse la pensée de l'homme, c'est ce qui agit véritablement sur cette terre. Donc, les contes, d'une manière générale, qui sont liés à la nature, sont erronés lorsqu'on arrive en terre d'Israël. Je voudrais aussi m'attarder sur ce verset, je le répète, « Ki male'a ha'aretz » c'est Isaïe 11, « Ki male'a ha'aretz de'a et Hashem kamaim layam mechassim » Alors, je vais m'arrêter une seconde sur cette notion « kamaim layam mechassim » Je vous ai traduit d'une manière simple « comme les eaux recouvrent la mer ». Mais lorsqu'on fait attention à cette façon de traduire que je viens de vous donner, en réalité, on s'aperçoit que le terme « yam » en hébreu ne représente pas ce que vous pensez. Quand vous pensez « mer », vous pensez « eau », « liquide ». Alors que dans la sémantique de la Torah, le mot « yam », c'est quelque chose de vide, c'est la baignoire. C'est tout simplement le fond, c'est le contenant. Donc, dès que vous dites yam, ça ne veut pas dire forcément avec de l'eau. Mais s'il y a de l'eau dans la mer, ça veut dire qu'il y a maintenant ce liquide dans le degré qui s'appelle mer, qui est le contenant, qui est en fait cette grande baignoire qui s'appelle yam en hébreu. Donc ne confondez pas maïm avec yam. Dans le mot yam, il manque 40 degrés qui se trouvent dans le mot maïm. Car le mot maïm, c'est deux fois même et une fois yud. Alors que yam, c'est une fois yud et une seule fois même. Donc nous avons dans l'eau quelque chose qui est 40 fois plus que ce qu'il y a dans le fond même de la mer, qui est le contenant, qui est la grande baignoire. Ici, nous avons donc quelque chose de très très important. Je vais y revenir, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. Mais je reviens à ce que nous venons de dire, c'est que la terre d'Israël va se remplir de cette connaissance qui dépasse l'entendement, donc par ce nom-là, et bien entendu, les choses vont se répercuter et au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. C'est-à-dire qu'au niveau quantité, nous allons voir que la terre d'Israël va produire beaucoup plus que ce qu'elle n'a été fécondée en réalité. Il y aura une production extraordinaire dans le véritable sens du terme qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est au niveau quantitatif, mais la nouveauté, c'est qu'il y aura aussi une augmentation au niveau qualitatif, c'est-à-dire que la récolte va dépasser tout entendement et elle va rejoindre ce qu'elle était au départ. Le vin deviendra très rare et très cher. Et comme dit la Gemara de Sota à la page 48, depuis la destruction du temple, les fruits ont perdu leur véritable goût. Eh bien, dans le processus de Géoula, les fruits vont retrouver leur goût, comme dit Rabbi Eliezer dans Sanhedrin 98, qu'il y aura en réalité une abondance au niveau des fruits, car la terre donnera beaucoup, et en plus de cela, elle donnera beau, bien, rempli. En hébreu, Be'ain Yafa, avec un bon œil, avec une générosité. Donc il y a ici un changement radical de ce que la nature voulait bien dévoiler jusqu'à présent, et le moment où la terre agira comme un mikvé, sera imprégné de ce nom d'Hachem qui est en train de remplir. Ce nom d'Hachem descend, je vous l'ai dit au départ du shiur. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il descend? Il ne se déplace pas. Descendre, dans le langage de la Torah, c'est se dévoiler. Autrement dit, il y a un dévoilement de plus en plus grand de ces valeurs. Comment est-ce que ces valeurs emplissent de plus en plus le monde? L'un des conduits, c'est l'étude des secrets de la Torah. Quand on étudie les secrets de la Torah, on fait référence à ce nom-là qui est transcendant parce que nous touchons des éléments qui viennent de l'au-delà, des éléments qui nous viennent de ce qu'on appelle le discernement supérieur, de l'ordre de l'infini béni soit-il, qui n'est pas au niveau du cérébral humain. Et donc, nous considérons que la Torah est une prophétie parce qu'elle nous vient du ciel, et c'est d'ailleurs l'un des articles de foi. Si on n'a pas conscience que notre Torah vient de l'au-delà, on appelle ça d'un langage courant le ciel, eh bien, ça ne sert à rien d'étudier la Torah, même si vous pensez qu'elle est intelligente et qu'elle aurait pu être écrite par un homme très intelligent, aussi intelligent soit-il. Pour nous, ce n'est pas la Torah, ce serait de la Avodah Zara. Quand la Torah nous arrive, elle nous arrive min ha-shamayim, des cieux. Des cieux, sous-entendu, d'un degré qui nous dépasse, donc encore une fois, référence à ce nom-là. D'ailleurs, le pharaon, qui est bloqué dans les lois de la nature, ne peut pas connaître ce nom. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo, c'est l'expression même de Paro. Qui est ce tétragramme pour que j'entende sa voix? Je ne peux pas, moi je ne connais pas ce nom, je ne connais que le nom qui est référencé par la nature. c'est le nom de Elohim. Alors que ce nom-là, je ne le connais pas. Et donc, à la fin de tout le processus et de la sortie d'Égypte, on va voir un pharaon qui reconnaît ce nom-là et qui va le dire dans ce que nous appelons la Shirat Hayam, le chant de la traversée de la mer Rouge, Mi kamocha ba'elim Adonai. C'est la première fois que Paro va reconnaître la souveraineté de l'infini dans ce monde. Jusque-là, il pensait que la pensée humaine était maître, ce qui a donné d'ailleurs naissance à la Grèce antique, qui est restée en fait coincée dans ce même système, qui a donné référence après aux mathématiques et à tout ce qui tourne autour des comptes de ce monde. Mais nous, dans le judaïsme, on a une conscience qu'il y a un degré qui dépasse tous les comptes. C'est au-delà du cheshbon. Le cheshbon, d'ailleurs, dans la Kabbalah, est toujours lié à un degré bas. Au-dessus du cheshbon, il y a ce qu'on appelle les otiyot, les lettres elles-mêmes. Mais ce n'est pas encore le summum. Au-dessus des lettres, il y a ce qu'on appelle des tagim, des espèces d'antennes qui relient en fait la lettre à un élément supérieur. Et on commence déjà à comprendre que les lettres elles-mêmes viennent d'un monde élevé. Et au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle les te'amim, les goûts, les sens des choses, et l'apostrophe, et le sens au pluriel, c'est-à-dire la direction de chaque chose. Donc, comprenez bien qu'à chaque fois que nous sommes en train d'étudier la Torah, nous étudions en fait un degré qui dépasse complètement la nature humaine, mais qui s'habille dans la nature humaine. Et là se trouve la grandeur de Dieu qui arrive à se contenir, ce qu'on appelle un tzimtzum, dans les valeurs historiques de ce monde, pour nous donner des messages de vie. Ce Shabbat, si nous allons lire Be'ezrat Hashem la paracha de Vaïgash, il faut bien comprendre que c'est une paracha qui va toucher notre être intérieur. Ce n'est pas juste qu'on raconte cette histoire à la synagogue, et on rentre à la maison, on va manger, et c'est tout. Qu'est-ce que tu as lu ce Shabbat? J'ai lu cette paracha. La semaine dernière, j'ai lu une autre. La semaine prochaine, j'en lirai une autre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu lis dans la semaine correspond à la nature de la semaine, même si tu ne le vois pas. Et donc, tous les acteurs qui vont remplir cette paracha de ce Shabbat se trouvent à l'intérieur de chacun de nous, et nous devons les activer selon l'histoire qui les active dans le texte et dans l'histoire, dans le narratif de la Torah. Donc attachez vos ceintures et faites travailler votre Yosef et votre Yehuda, puisque ce sont les deux acteurs principaux de cette paracha. Sans faire ce travail-là, eh bien, vous aurez encore lu un texte, une fois de plus, et ce n'est pas véritablement quelque chose qui amène dans ce monde ce qu'Akadosh Baruch Hu prévoit d'acheminer dans ce monde. La Torah n'est pas seulement un texte, la Torah n'est pas une étude, elle est en réalité un conduit par lequel va se déferler sur le monde toute l'abondance divine, toutes les bénédictions d'en haut et toutes les valeurs qui dépassent la pensée humaine. Donc si on veut grandir et faire grandir le monde avec nous, nous devons nous hisser à ce degré supérieur qui correspond à la Géoula. D'ailleurs, selon les kabbalistes, c'est lorsque ce nom sera dévoilé véritablement dans le monde que la libération totale de ce monde, de cette matière, sera accomplie et aboutira. Tant qu'il n'y aura pas reconnaissance de ce nom-là, Bayom Hahu, Yihye Adonai, Echad, Ushmo Echad, eh bien, il n'y a pas de Géoula à proprement dit. Donc, nous devons faire un travail puisque c'est nous les porte-parole de ce nom. Chaque fois que Dieu veut donner un message, il le fait passer par le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'on dit ça en hébreu? Koach ma'asav higid le'amo. La force de ses actions, il les fait passer. Il guide Ce n'est pas seulement dire, c'est guider ou passer par les guidim, par les tendons de l'être. Et qui sont les tendons par lesquels se diffuse la lumière dans ce monde? Eh bien, c'est son peuple. Encore une fois ici, appartenance. Nous aussi, on s'appelle Am HaKodesh, le peuple appartenant aux valeurs du Kodesh. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de ce Kodesh qui est transcendant, Eretz HaKodesh, la terre du Saint béni soit-il. Donc, je répète ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de développer un verset dans le prophète Isaïe au chapitre 11 qui m'allea haaretz de'a et Hashem kamaim layam mechassim. Donc il y a une comparaison de la Géoula à un grand mikvé. Et donc la Géoula est un grand mikvé, est une entrée de l'humanité tout entière dans le mikvé de la connaissance d'Hachem. Dans cette connaissance-là, dans ce grand mikvé, c'est par lui que nous vivons, c'est lui qui fait et qui fait vivre et qui agit et qui transforme et qui rajoute sans cesse du divin dans notre monde. Donc, il faut arriver à un point, et là, je précise les termes du prophète, Kamaim layam mechassim. Que veut dire le mot mechassé? Couvrir. Donc, on ne se suffira pas d'une petite geoula. Il faut que véritablement cette connaissance-là recouvre complètement le cerveau humain, le rationnel humain et le système de la nature. Donc, le fond ici, c'est la lumière divine. Ici, en l'occurrence, est comparé à l'eau. Okay? Et la même chose, elle va recouvrir le kli que nous avons appelé yam. Rappelez-vous, le kli s'appelle yam. Yam, ce n'est pas l'eau. C'est les maïm qui recouvrent le yam. Donc, l'eau va recouvrir cette grande baignoire qu'on appelle yam. Il y a donc notion de tikkun. Et c'est le fondement même du tikkun. Ça aussi, c'est une notion qu'on entend beaucoup. C'est son tikkun, c'était son tikkun. Les gens disent tikkun, mais ne savent pas véritablement de quoi ils parlent. Lorsqu'on parle de tikkun, on parle tout simplement d'un degré qui remplit l'ustensile qui lui correspond. Par exemple, un homme et une femme qui se retrouvent, eh bien, l'un complète l'autre. L'autre complète l'un et c'est la notion de tikkun. D'ailleurs, ce qui va sortir de ces deux, c'est un tikkun qui s'appelle tinok. Tinok, ce sont les mêmes lettres que tikkun. Et donc, il y a ici une véritable notion qu'il faut introduire en soi, que tikkun, c'est à chaque fois faire une correspondance, chercher la correspondance exacte, qui respecte la nature profonde de la chose et qui va trouver le lien entre la lumière en question et l'ustensile. Un petit exemple de la vie, si je remplis un verre en plastique de thé bouillant, eh bien, le verre ne correspond pas au liquide. Donc ici, le contenant et le contenu ne sont pas appropriés l'un à l'autre. Vous comprenez bien? Eh bien, le véritable tikkun, à chaque fois que vous allez employer cette notion de tikkun, ça voudra dire qu'il y a, oui, correspondance entre la lumière en question et le contenant qui va contenir cette lumière. Donc, le or remplit le kli avec appropriation des choses. Et je reviens maintenant au mikvé, puisque la référence du prophète, c'est en réalité une grande baignade. On va tous baigner dans ce grand liquide qui va déferler sur le monde et qui va remplir le monde par le nom d'Hachem. Eh bien, lorsqu'un homme, avec un grand H, homme ou femme, entre dans l'eau, dans les eaux du mikvé, eh bien, il va faire en sorte d'avoir « emaim », ça, c'est l'élément liquide, et le fond du mikvé qui s'appelle Yam. Vous vous rappelez? Donc, il y a en réalité Maïm plus Yam. Cette combinaison s'appelle Tikkun, puisque l'eau remplit le contenant qui lui correspond. Ce n'est pas par hasard que l'homme va se purifier. C'est justement parce qu'il entre dans une combinaison d'une lumière et d'un ustensile correspondant. Et donc, il est rentré dans un mariage entre l'eau et le fond de l'eau. Et c'est pourquoi il arrive à se purifier. Et là aussi, se purifier, ce n'est pas comme vous l'entendez en français, mais se purifier, cela sous-entend qu'il enlève de lui tout ce qui représente un barrage, un écran total qui ne laisse pas passer en lui la lumière. C'est-à-dire que nous devenons, si nous ne faisons pas attention à nous-mêmes, nous devenons imperméables de plus en plus à la lumière d'Hachem. Et on nous demande de devenir perméables. Pour devenir perméable, il faut enlever ce qu'on appelle la Touma, ce qui nous bouche, ce qui nous rend obstrué. On est complètement fermé, on est calfeutré, cheder atum, à cette lumière divine. Donc, pour enlever ces écorces qui nous étouffent dans notre vie, nous devons entrer dans ce mikvé. Vous comprenez bien maintenant que ce mikvé n'est pas seulement un mikvé physique lorsque vous rentrez dans l'eau. Certes, c'est vrai, mais il y a ici une référence à la vie d'une manière générale, au grand mikvé de la fin des temps. Et donc, cet homme, cette femme entre dans un processus, dans une combinaison, dans une fabrication spéciale d'une entité qu'on va appeler d'une manière générale le mikvé. Maïm plus Yam. Eh bien, quand vous rentrez dans un processus, vous commencez à vous identifier au processus. Vous êtes complètement associé à ce processus puisque vous êtes couvert d'eau sans laisser aucune séparation, d'où toutes les lois très strictes concernant la peau pour qu'il n'y ait pas une séparation entre l'être que je suis et qui veut se purifier et l'eau qui va toucher toutes les parties de mon corps. Même la bouche doit rester ouverte dans le mikvé. Quelqu'un qui ferme la bouche fortement, bien le mikvé ne l'a pas touché complètement. La bouche doit rester comme ça au moment où nous plongeons dans l'eau. Il faut lever les pieds du fond du mikvé et il faut baisser la tête du dessus de l'eau et se trouver en réalité complètement dans ce bain comme un fœtus à l'intérieur de cette liquidité que lui donne sa maman. Donc, nous sommes dans un état fœtal qui nous ramène à la première pensée. Vous voyez donc pourquoi le prophète Isaïe, qui est le prophète par excellence de la délivrance, nous parle de la Géoula qui va ressembler à ce remplissage d'eau. La terre va se remplir de l'eau de l'infini, béni soit-il, rappelé par son nom, par ce nom-là. Donc, on va être recouvert d'eau et là, nous sommes en train de devenir une partie du processus puisque je suis complètement imprégné d'eau, entouré d'eau et je reçois en fait une connaissance supérieure, une force qui va me permettre de dévoiler la véritable pensée du départ. C'est comme si je rentrais encore une fois dans le ventre de maman lorsque j'étais encore une pensée dans le cerveau de papa qui est passé dans le ventre de maman. Vous comprenez que cette force, c'est la force non seulement du mikvé, mais de la Géoula. Avec des mots simples, la Géoula, c'est tout simplement aboutir à la première pensée du divin. Quand cette première pensée va se réaliser dans la dernière des créations, à savoir la matière, la terre, Malé'a ha'aretz, eh bien, nous voilà dans un film complet qui a touché en fait le plus loin par le plus élevé. Et ce qu'on appelle Dea, puisque je rappelle encore une fois le verset du prophète, qui Maléa Haaretz Dea, la terre se remplira elle-même. On ne dit pas que les hommes de la terre se rempliront de la pensée. Les hommes de la terre, c'est une chose, mais là, on parle de la matière elle-même, comprenez bien, c'est-à-dire des morceaux de terre, de la pierre. Elle-même se remplira de cette connexion. Et cette connexion nous empêchera de tourner en rond, nous empêchera de nous tromper de chemin, parce que ce monde est un monde de tellement de détails qu'il est très difficile de rester concentré et de converger vers un sens véritable. Nous nous perdons en route. Vous avez commencé votre voyage pour aller quelque part et vous savez qu'au milieu, il y a des arrêts, on s'arrête pour faire ses besoins, on va s'acheter des glaces, on va s'acheter à manger, les enfants vont faire leurs besoins et on risque d'oublier vers quoi nous allons. Dans le processus de Géoula, il y a tellement d'arrêts en chemin, et nous les voyons aujourd'hui, arrête, continue, confinement, déconfinement, et continuellement, et tous les processus qui sont à l'intérieur du grand processus, du mainstream, eh bien, on peut se perdre dans tous ces détails de la vie, malheureusement, dans tous ces petits degrés qui vont nous déranger, qui vont servir d'information qui n'est pas nécessaire, mais qui va embrouiller, en fait, l'émission centrale, l'émission de Dieu qu'on appelle Da'at. Et quiconque garde ce Da'at, garde en réalité la ligne de conduite. Comment est-ce qu'on appelle une ligne de conduite en hébreu? Kav Marshava. Tu as une ligne de conduite. Eh bien, vous avez le mot Kav dans le mot Mikvé. C'est le centre même du mot Mikvé. Vous voyez le Kav? Quand vous entrez dans le Mikvé, eh bien, vous retrouvez le Kav. Kav qui veut dire donc ligne droite, direction, sens, on ne se perd plus. Et donc nous avons une rencontre avec le sujet premier, primordial de notre vie. Bien entendu, nous sommes entourés de ma. Qu'est-ce que c'est ma? C'est l'eau, comme en arabe. Ma. Ça veut dire que quand je rentre dans le mikvé, je suis entouré de ma, mais je retrouve en réalité le sens même de ma vie. D'ailleurs, au pluriel, ma, c'est maim. Quelle est la valeur numérique de ma? C'est 45. 40 et 5. Quelle est la valeur numérique de maim? 90. C'est deux fois ma. Donc, l'eau en hébreu n'est jamais au singulier, comme en français ou en arabe. Elle est toujours au pluriel. On dit les eaux. Cependant, quand je retrouve en fait le singulier de l'eau, ici, ma, je retrouve aussi ce que je suis, ma. Et Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Venachnu, ma. J'ai retrouvé mon ma, mon quoi. Parce que je sais où je vais, j'ai une ligne de conduite, j'ai un sens dans la vie. À chaque fois que Kadosh Baruch Hu nous dit, vous vous êtes planté, vous vous êtes trompé, eh bien, on a tourné en rond dans le désert. Arbaim shana akut bedor. Va omar am to'e levav hem. C'est un peuple qui s'est trompé, qui n'a pas compris le sens, même la direction. Bien, il y a des gens qui sortent d'Égypte et qui s'arrêtent au milieu, qui ne vont pas jusqu'au bout de cette sortie. Je vous rappelle que le bout de cette sortie, c'est la terre d'Israël. Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte et qui sont restés dans un autre désert, dans le désert des nations. D'ailleurs, c'est l'histoire de Abraham Avinu, vous vous rappelez. Chez Abraham, il y avait trois frères, Abraham, Nahor et Haran. Okay. Haran est mort parce qu'on l'a brûlé dans les fours crématoires de l'époque. Donc un tiers du peuple d'Israël est déjà mort dans les fours crématoires de Kasdim. Haran est sorti de là-bas, mais il s'est arrêté à Haran. C'est Nahor. Il a construit une ville, New York, Paris, Amsterdam, ce que tu veux. Et il est resté là-bas. Et d'ailleurs, le père qui est allé le rejoindre avant de continuer son chemin sur la terre d'Israël s'est arrêté avec lui. Donc, ils ont fabriqué une grande communauté dans l'exil. Donc, encore un tiers du peuple d'Israël qui restait dehors. Seulement, Abraham a continué, est arrivé en Israël. Un tiers du peuple d'Israël se trouve sur la terre. Voilà l'histoire du peuple d'Israël. Ce qui était dans le passé se répercute dans le futur. À vous de choisir de quel frère vous voulez prendre exemple. Il y a donc quelque chose de très sérieux dans ce mikvé, et la terre d'Israël ressemble à ce mikvé. D'ailleurs, elle est beaucoup plus forte que le mikvé, puisque le mikvé, je dois être nu pour y entrer. Alors que la terre d'Israël, je dois entrer avec mes vêtements, avec mes chaussures, avec tout ce que j'ai. C'est beaucoup plus fort. On te demande d'être ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te dénuder. Ça ressemble d'ailleurs à la mitzvah de la Souka, qui elle aussi fait référence à la terre d'Israël. Donc, nous avons ici le mikvé qui est l'engendrement de ce que vous allez connaître un tout petit peu plus tard, la tikva. La tikva, c'est la même racine, c'est mikvé. Mekavé, j'espère, ani mekavé, ça s'écrit exactement comme vous le voyez. À l'infinitif, tikva. Donc la tikva, l'espérance, kolod balevav. Mais c'est exactement ça. Pourquoi tu as une espérance? Parce que tu as trouvé ta ligne à l'intérieur des eaux de la vie. Et donc, tu dois sortir de ces eaux. C'est pourquoi le libérateur d'Israël est sauvé des eaux. Et donc, il est issu de l'eau. Donc, on retrouve son identité véritable. Il ne reste que la ligne conductrice. Et c'est beaucoup plus fort que ça, parce que veut dire le mot mikvé? Je vous ai dit tikva, espérance. Je vous ai dit cave, trait d'union ou ligne de conduite, de vie, certitude. Mais c'est en même temps un texte qui nous apparaît dans la Torah, au moment de la création du monde. Ou les mikvé hamaim karayamim. Akadosh Baruch Hu a rassemblé les eaux. Et comment c'est dit là-bas? Yikavu, c'est la même racine. Yikavu, kav, donc rassemblement. Moralité, quand vous rentrez dans le mikvé, vous redevenez vous-même parce que vous vous rassemblez, alors que vous étiez éparpillé dans les détails de ce monde. Vous retrouvez une direction de vie parce qu'il y a le kav à l'intérieur de ces eaux, et en plus de cela, vous vous remplissez d'espérance et d'espoir, la tikva. Donc vous avez la totale, c'est en réalité le véritable degré de la Géoula. Je reviens au verset de notre prophète Isaïe, qui m'aléa ha'aretz de'a et Hashem kamaim layam mechassim, lorsque toute la terre vivra l'expérience que je viens de vous faire passer, eh bien, on sera dans la Géoula complète. Donc, nous allons être rassemblés. Mikvé, c'est donc la troisième traduction, rassemblement. Quand tu vas au mikvé, tu sors de ton éparpillement de l'être et tu reviens vers la concentration de l'être que tu es. Tu retrouves ce que tu es. Tu te retrouves. Donc, c'est exactement l'antithèse de l'exil qui est, par définition, le pizour, l'éparpillement en détail, la mise en détail de la nation d'Israël qui doit être une sur sa terre. Umi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. La nation d'Israël ne fait qu'une seulement avec ce lieu qui est le mikvé en réalité de tout ce qu'on vient de dire. Ce rassemblement, qu'on appelle mikvé, a le nom de l'un des acteurs qui va jouer ce Shabbat dans la paracha. On l'appelle le rassembleur, puisque quand je me rassemble, que je me concentre, je suis Yosef, donc Osef. Osef, en hébreu, c'est se rassembler. Et donc, ramener les choses, les esof en hébreu. Donc Yosef est effectivement le fils rassembleur. C'est le soudeur d'entre tous les frères. Sans Yosef, il n'y a pas de lien avec ce degré. Et d'ailleurs, on lui a rajouté une lettre à Yosef. On l'appelle Yeho. Vous voyez déjà les trois lettres. Et la dernière lettre, c'est le Sof. Yehosef. Sof, c'est la fin. Donc, Yosef est en réalité la manifestation de ce nom, mais d'une manière cachée. Car Yosef est déguisé en un homme normal, d'ailleurs très bel homme. La Torah le dit, il touche ses cheveux, il se fait beau. Mais quelqu'un qui le voit à l'extérieur se dit, celui-là, il n'est certainement pas dans la Torah. Parce que pour être dans la Torah, il faut bien entendu se déguiser. Pas du tout. Yosef, c'est l'homme Israël qui n'est pas déguisé. Au contraire, il ressemble aux nations du monde. D'ailleurs, il va servir de pont entre Israël et les nations, en l'occurrence l'Égypte à l'époque où il était là-bas. Donc nous devons avoir et Yehuda qui lui, alors carrément, Yudke Vavke, c'est Yehuda, le nom est complètement là-dedans. Et Yehosef, avec un nom caché, mais tous les deux représentent ce nom d'Hachem. Moralité, il va falloir qu'ils se rencontrent. Et ils vont se rencontrer ce Shabbat. Donc, je vous invite à faire la même chose à l'intérieur de votre être intime. Faites rencontrer votre Yosef avec votre Yehuda. Ces deux acteurs sont à l'intérieur de vous. Yehuda, et là je vous traduis en hébreu, c'est la capacité à reconnaître. Yehudi, Modé, je remercie et je reconnais. En français, ce sont deux termes, reconnaître et remercier. En hébreu, c'est un seul terme. Quand je suis modé, ça veut dire je dis merci, mais en même temps, je reconnais. Je reconnais la vérité de la chose. Ça, c'est Yehuda. Et Yosef, c'est celui qui rajoute, qui rassemble, mosif, rassembleur, rajoute. Donc, un mouvement perpétuel. Car il s'agit de l'infini, béni soit-il, donc ça ne peut pas s'arrêter. Donc il y a un mouvement continuel de mon avancée. C'est pour ça que vous n'êtes jamais tranquille. En tant que fils et fille d'Israël, vous êtes toujours dans une recherche de plus dans tous les éléments de votre vie. Vous voulez toujours exceller dans tout ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que vous êtes animé par l'infini. Qui dit infini, dit non fini, no limit. Donc vous avez toujours envie d'aller plus loin. Et surtout quand vous êtes israélien, c'est-à-dire c'est encore un autre degré de juif. C'est une nouvelle forme de graine. On a fait une mutation, on est devenu israélien. Alors l'israélien, c'est le juif multiplié par 1000. Il veut le monde entier. Ok ? Et donc ça va comme ça, et c'est en réalité une qualité qu'il faut savoir aussi gérer. bien entendu. Donc la Géoula est un grand sujet. Je suis à 10 minutes de la fin du cours. La Géoula est le centre même des sujets de notre vie. C'est l'idée première qui était à la base, à la source de toute la création du monde. Dévoiler dans le monde de l'éparpillement l'être unique, l'unicité de Dieu. Quand on parle d'un Dieu unique, c'est pas que le judaïsme dit qu'il n'y a pas deux dieux. On n'est pas des imbéciles. On sait qu'il n'y a pas deux dieux. Personne dit qu'il n'y a deux dieux. C'est pas ça, croire dans l'unicité de Dieu. La Emouna d'Israël, c'est de croire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que lui. En od milevado. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans votre vie, ce ne sont que des représentations qui vivent à plus ou moins un autre degré de ce degré-là. Si je prends par exemple cette boîte de chewing-gum, eh bien, c'est ce divin qui l'anime à son petit degré à elle en forme de gomme. Mais c'est toujours la même lumière. C'est-à-dire la même lumière qui anime cette petite boîte, c'est la lumière qui m'anime à moi. Vous comprenez? Seulement, dans cette petite boîte, les mesures de cette boîte ne sont pas capables de révéler plus que ce qu'elles font. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'elle est fidèle à elle-même. Et moi, je devrais dévoiler beaucoup plus que cette boîte. Et là aussi, là, par contre, il y a un examen. Suis-je fidèle à ce nom-là, ou pas assez? Si je suis fidèle à ce nom-là, j'essaye de le faire venir dans ce monde, puisque son but, c'est de se dévoiler à travers moi, peuple, dans le monde qu'il a lui-même créé. Donc, je vais tout faire pour l'aider. Amachazir Shechinato Letzion, je vais le faire revenir à Tzion. Comment est-ce que je peux refaire venir Dieu à Tzion? Eh bien, je fais mes valises. Et je viens habiter en Israël. Quand je viens habiter sur cette terre, j'amène avec moi du divin, Rabotai, pas moins que cela. Je sais que c'est sympathique d'étudier la Torah, mais nous sommes dans une réalité. La Torah, ce n'est pas un livre d'études. La Torah, c'est un livre de vie. C'est un conseil de vie. Tant que tu ne vis pas ton étude, bien, tu manques. Il y a un problème. Alors, je reviens à ce que nous sommes en train de dire. Le dévoilement du prophète ne laisse aucun élément en dehors du système de la rédemption. Vous avez compris, puisque l'eau doit recouvrir complètement la terre, donc la matière. Il n'y a pas un détail qui est en dehors du sujet de la Géoula. Voilà ce que nous sommes en train de dire. La Géoula ne saute pas par-dessus rien du tout. Oubliez ça. Personne. Elle recouvre Kamaim Layam Mechassim. Et les sages nous disent que même si le peuple d'Israël n'est pas au niveau où il aurait dû être pour recevoir toutes ses forces, eh bien, il est sauvé malgré tout lorsqu'on prend compte de son futur. Parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. Donc, on lui donne en fait carte blanche. On lui dit, je te fais une avance sur ta Géoula. Donc, tu vas être sauvé maintenant. Tu me rembourseras un tout petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que nous sommes condamnés à être libérés. Donc, il n'y a rien de plus certain que notre délivrance. Et notre futur, qui est un futur qui chante, et déjà au présent, si j'ai envie de le vivre, tout simplement. Et c'est en réalité ma véritable force. À l'intérieur de moi, je suis appelé d'ailleurs Geoulim. Le peuple d'Israël s'appelle les délivrés, ceux qui sont délivrés. C'est leur nature. Voilà notre prénom, notre surnom. Tu le veux, tu ne le veux pas, on s'en fiche complètement. D'ailleurs, c'est comme le mikvé, hein. Tu rentres dans le mikvé parce que tu avais envie de rentrer ou bien parce qu'on t'a poussé. Est-ce que le mikvé opère la purification sur toi, oui ou non? Oui. Ça ne dépend même pas de ta pensée. Tu as été entouré d'eau, c'est fini. T'es foutu, tu es pur. Incroyable quand même. Et les gens qui vont faire partie du processus de cette délivrance. On va prendre l'exemple donc de ceux qui ont construit le mikvé. Le mikvé, c'est quoi? C'est une bâtisse, on est d'accord, non? Avec une cuvette, avec des escaliers, avec un chauffage à l'intérieur pour que l'eau soit agréable. Mais les gens qui ont construit ça, je vous pose une question. Est-ce qu'ils savaient les secrets du mikvé? Est-ce qu'ils savaient les bienfaits du mikvé? Est-ce qu'ils savaient que quelqu'un allait entrer dans ce mikvé impur et sortir pur? Pas du tout. Et pourtant, ça marche. On s'en fiche de l'ouvrier ignorant qui a construit ce mikvé. C'est magnifique. Vous avez compris la correspondance? Les hommes et les femmes d'Israël qui vont faire la Géoula, le processus de la Géoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, eh bien, qu'ils soient conscients ou pas de ce qu'ils sont en train de faire, même s'ils sont les plus grands mécréants, ils font partie des constructeurs de ce travail. Ça fait peur. Vous ne pouvez pas vous sauver. Il n'y a pas où s'échapper. On est condamné à être libéré. C'est terrible. Si ce n'était pas bon, ça aurait été terrible. Baruch HaShem, Akadosh Baruch Hu nous force quelque part. Il nous dit, mais vous êtes libéré, vous ne pouvez pas faire autrement, vous faites partie de moi, je ne peux pas vous laisser ad vitam aeternam dans votre exil, ni de la pensée, ni des pays dans lesquels vous êtes en train d'habiter. Et tout doucement, vous allez vous réveiller. Et plus le temps approchera, plus le réveil sera beaucoup plus vite. Et les décisions vont être immédiates. Ça y est, c'est fini, j'en peux plus, je fais mes valises, je m'en vais. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de téléphones que je reçois de gens à qui je parlais il y a quelques mois et qui sont déjà là aujourd'hui, en me disant, tu sais, j'ai entendu un cours, ça m'a transformé complètement la vie, parce qu'en réalité, il suffit d'un cours. Vous savez, vous avez des couches, des couches, des couches, des couches. Alors, chaque fois, on enlève une épluchure. Et à un moment, il y a juste la dernière couche, après ça, vous êtes trop sensible. Donc, dès que ce cours arrive, on a épluché la dernière écorce, et là, vous êtes à vif. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'obéir à votre destin. Ça, c'est le secret de notre délivrance, Rabotai, qui ressemble à un mikvé. Le prophète Isaïe est extraordinaire dans cette petite phrase. Je n'ai même pas en réalité commencé véritablement à introduire le sujet, que j'en suis déjà à la fin, mais le prophète Isaïe nous donne ici quelque chose, une métamorphose de l'être, et par des métaphores, par l'idée d'être recouvert d'eau, parce que la Torah est aussi de l'eau, des eaux, et nous sommes imprégnés de cette Torah. Et d'ailleurs, vous qui prenez comme ça des moments de votre vie pour étudier, pour élaborer votre être, eh bien, vous êtes en train de rencontrer de plus en plus ce tétragramme, ce nom de l'infini qui se dévoile par tous ces éléments-là. Et nous sommes tous dans ce grand mikvé qui bientôt nous donnera la vision de ce trait d'union, de ce cave à l'intérieur qui nous donne en fait l'étape prochaine qu'est la prophétie. Donc nous sommes à la veille du dévoilement de la prophétie. La prophétie revient à grands pas dans notre monde, et cette prophétie, bien entendu, c'est la certitude par excellence, parce que là, ce n'est plus l'homme qui parle par sa pensée, c'est carrément l'éternité qui parle à travers l'homme, il devient un médium de cette lumière divine. Vous comprenez bien que c'est encore une autre cour de récréation, on ne joue plus avec les petits, on est en train de passer à un autre niveau, et je nous rejoins tous, je nous invite tous à nous rejoindre, Be'ezrat Hashem, dans ce beau programme de notre vie, qui est le programme de la délivrance. Merci beaucoup.
Toda Rabba Rav Yoel, il reste encore 2-3 minutes si vous avez des questions. C'est le moment.
Ouvrez les micros. Bon, ça devait être très clair, il n'y a pas de questions. Donc...
ou très clair ou pas du tout.
Tout en voix.
Ou alors c'est une hypnose, encore une hypnose.
Il faut qu'on digère.
Pas du tout, mais il faut encourager les gens.
Ces informations.
Vous comptez jusqu'à 10 et vous allez ouvrir les yeux tout doucement.
Il ne faut pas dire pas du tout, il faut encourager les gens.
Ken. Les questions sont internes, je comprends, à ce stade. Elles vont sortir au fur et à mesure, Be'ezrat Hashem, mais vous êtes toujours invité à les poser, même sur notre WhatsApp, sur nos sites internet et chez David.
Exactement, le cours est enregistré, il sera de ce soir, Be'ezrat Hashem, Binaire, sur le YouTube du Rav Yoel.
Quelle technologie ! Gam Zoom Letova. Alors, je passe maintenant à notre cours en hébreu, qui, bien entendu, traitera d'un autre sujet, mais c'est toujours de la Torah, donc toujours des eaux bénéfiques.